Bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci beaucoup d'être venus pour écouter Rita Falk pour la première fois au studio Ozone, pardon, que l'on remercie beaucoup d'être venus. Je tiens également à remercier l'Institut Goethe puisque cette rencontre se fait en partenariat avec l'Institut Goethe et je tiens à remercier également Cordula Gouski qui assure la traduction simultanée avec beaucoup de talent. Rita Falk, vous êtes en Allemagne une superstar, vous êtes quand même très 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 connue. Vous avez publié votre premier livre en 2010 et il se trouve qu'on vient tout juste de vous découvrir chez nous en France avec ce livre, La choucroute maudite, qui est publié en France aux éditions Mirabeau. Et c'est le premier volume d'une série de 8 qui met en scène un personnage très particulier qui s'appelle Franz Eberhofer. Je m'excuse par avance pour l'accent, qui est un commissaire de police qui travaillait à Munich et qui était renvoyé pour des raisons disciplinaires. En gros, il a pété les plombs. Et il se retrouve dans son village natal, on peut dire son bled natal, à jouer un peu les policiers ruraux. Il vit chez sa grand-mère, qui est une dame complètement sourde et qui est absolument obsédé par les réductions des supermarchés. Il vit aussi avec son père qui est fan des Beatles et qui participe à toutes les manifestations auxquelles il est possible de participer. Il reçoit de temps en temps la visite de son frère détestable qui le rabaisse tout le temps et qui est libraire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et finalement, tout se passe un peu comme ça, de façon très tranquille, entouré de tous ses amis qui sont des personnages très très hauts en couleur, jusqu'au jour où il va se retrouver mêlé à une affaire un peu étrange. Il se trouve que sur les 4 membres de la famille Neuhofer, il y en a 3 qui meurent dans des circonstances vraiment, vraiment très étranges et il va mettre son nez dedans et peut-être bien qu'il aurait jamais dû faire ça. Est-ce que le résumé est correct?
Ja, das war soweit korrekt. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich schön hier und Bordeaux ist also eine sehr liebenswerte und sehr, sehr schöne Stadt. Wir sind auch ganz herzlich empfangen worden und das ist mein erstes Auslandsattentat, sage ich mal, außer Österreich und Schweiz, aber das zählt ja nicht. Und es sind wohl sehr viele Deutsche da, wie ich gerade merke. Und ja, und ich frage mich jetzt, was soll ich jetzt eigentlich noch erzählen zum Buch? Es ist alles gesagt, ja.
Donc effectivement, oui, merci. Vous l'aviez parfaitement résumé. Maintenant, merci pour cette invitation quand même. Merci de m'avoir invité dans cette ville magnifique qu'est Bordeaux. Merci de cet accueil chaleureux. C'est ma première intervention, si j'ose dire, à l'étranger, parce que certes, l'Autriche et la Suisse, ça ne compte pas. Maintenant, vous avez tellement bien résumé mon livre que je me demande au fait que vous voulez que je dise encore.
Eh bien, comme justement, on ne vous connaît pas ou vous connaît très peu, moi, je voulais vous demander comment vous êtes arrivé à l'écriture, parce que votre premier roman, il est sorti en 2010. Et avant, si j'ai bien compris ce que m'a dit Google Trad, vous étiez employé de bureau. Alors, moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on passe d'un métier d'employé de bureau à écrivain.
Ja, also ich habe das große Glück gehabt, dass ich 2008 arbeitslos geworden bin. Was im ersten Moment natürlich für mich ein Riesenschock war und mich in eine richtige Depression befördert hat. Und dann war irgendwann der Gedanke da, diese 8 Stunden, die plötzlich über waren, einfach zu nutzen. Und da ich mein Leben lang schon gerne geschrieben habe, aber mit 3 Kindern und Vollzeit berufstätig kommt man einfach nicht über eine Kurzgeschichte hinaus.
Donc effectivement, je peux dire que j'ai eu de la chance parce que en fait, en 2008, j'ai perdu mon emploi, donc j'étais au chômage, ce qui initialement pour moi a été un choc et j'ai sombré dans une petite dépression quand même. Mais je me suis dit bon. L'idée, c'était que je pouvais utiliser les 8 heures que maintenant j'avais à ma disposition, justement pour en profiter. Et j'ai toujours aimé écrire, mais c'est un petit peu difficile de dépasser la nouvelle lorsque l'on a 3 enfants et que l'on travaille à plein temps.
Naja, und dann habe ich also wirklich diese 8 Stunden am Tag genutzt und habe angefangen, einen Roman zu schreiben. Das war noch gar nicht einmal der Franz Eberhofer, sondern mein Buch Hannes. Und das wurde mal abgelehnt von den Verlagen mit der Begründung, das ist für ein Debüt eine zu schwere Kost.
Et donc, j'ai profité des 8 heures par jour qui m'étaient données et je me suis lancée dans l'écriture d'un roman qui ne concernait nullement le Franz Eberhofer initialement, mais ça, c'était le roman qui s'appelle Hannes, que j'ai présenté ultérieurement aux maisons d'édition qui m'ont tout dit que non, malheureusement, pour un premier roman, c'était un petit peu trop lourd comme sujet.
Und dann ist bei mir ein bisschen so eine Trotzreaktion ausgelöst worden und ich habe mir gedacht, gut, wenn ihr von mir keine ernsten Bücher haben wollt, dann schreibe ich jetzt eben lustige.
Et donc par dépit, je me suis dit bon, puisque c'est ça et puisque vous ne voulez pas que j'écrive du sérieux, je vais me lancer dans le genre de la comédie.
Und naja, und dann überlegt man, wo kennt man sich aus, was weiß man, worüber weiß man Bescheid und dann ist bei mir ganz schnell klar gewesen, also ich schreibe über Bayern, also speziell über Niederbayern, weil ich da einfach zu Hause bin und jeden Krümel kenne und ich schreibe Krimis, weil ich mit einem Polizisten verheiratet bin und der regelmäßig für Nachschub sorgt.
Et donc se poser la question du quoi, qu'est-ce que je pouvais bien écrire, et il était clair pour moi que je devais quand même bien maîtriser le sujet, il fallait que j'ai quand même des informations de fond, et donc il était clair que forcément le lieu, ça devait être la Bavière, la basse Bavière, puisque c'est mon terroir, j'y connais chaque grain de sable, et en plus, je savais que ça allait être un polar, puisque avec mon informateur, j'allais toujours avoir des nouvelles histoires à raconter.
Naja, und dann war eben der Franz Eberhofer auch irgendwann mal fertig, der erste Teil. Und ich habe dann in der Zwischenzeit ein bisschen im Internet rumgegoogelt und habe rausgefunden, also das an Verlage selber zu schicken, macht überhaupt keinen Sinn, weil die einfach zu viele Manuskripte bekommen und gar nicht da alles durchlesen können.
Et puis, après la genèse du premier Franz Eberhofer, premier tome, j'ai navigué un petit peu sur Internet et je me suis renseignée un petit peu. Il s'est avéré qu'envoyer son manuscrit directement à une maison d'édition, ça ne servait à rien puisque il déferlait une telle avalanche de manuscrits chez eux que de toute façon, ça n'avait aucune chance d'aboutir.
Und ich habe rausgefunden, man sucht sich eine Literaturagentur. Da gibt's natürlich auch eine jede Menge davon und auch viele, die nicht seriös sind, die einfach nur Geld verdienen wollen. Und ich bin irgendwann auf die Agentur Copyright in Frankfurt gestoßen, weil mir einfach die Homepage das sehr gefallen hat.
Et je me suis donc dit, je vais opter pour une agence littéraire. Mais là aussi, il y a à manger et à boire. Il y a, par exemple, des agences qui ne sont vraiment pas très sérieuses parce qu'elles ne veulent faire que de l'argent, gagner de l'argent. Puis, je suis tombée sur l'agence qui s'appelle Copyright et qui se trouve à Francfort. Et au fait, j'ai opté pour eux parce que j'ai beaucoup aimé leur page d'accueil sur Internet.
Also auf dieser Homepage stand ein Satz, diese Agentur sucht Autoren, die sich nicht verbiegen lassen. Und die haben damit mich gemeint, weil ich, das war für mich immer schon Horror, dass irgendein Lektor mit einem Rotstift in meine Manuskripte rumfuhrwerkt und das wollte ich also nie. Aber es stand auch noch ein zweiter Satz dabei, man sollte anrufen dort, bevor man ein Manuskript einreicht.
Et ce que j'ai surtout aimé, c'est une phrase qui était marquée dans sur leur site, c'était qu'ils cherchaient des auteurs qui ne ploient pas. Et ça, effectivement, c'était moi, ils parlaient exactement de moi, puisque j'ai toujours eu horreur qu'un lecteur prenne son stylo rouge et commence à corriger dans mon texte. Mais il était dit aussi qu'il était souhaité que l'on les appelle avant d'envoyer le manuscrit.
Nein, und das war dann mein Problem, weil ich habe mich nicht getraut anzurufen, weil ich habe mir gedacht, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und wenn du den jetzt versemmelst und irgendwie ins Stottern kommst oder dann ist das erledigt. Also bin ich da eine Woche um den Telefonhörer rumgekreist und habe meinen Mann schon ganz verrückt gemacht und eines Sonntagsabends war meine Stimmung wieder ziemlich schlecht und dann hat der Robert zu mir gesagt, wenn du da morgen nicht anrufst, dann wandern deine ganzen Manuskripte und das waren zu dem Zeitpunkt schon 3 in den Ofen. Was völlig egal gewesen wäre, weil die waren ja auf dem PC, aber der Satz hat Wirkung gehabt.
Et effectivement, là, justement, résidait toute la problématique parce que je n'osais pas. Ça veut dire que là, je me disais, il n'y a pas de deuxième chance lorsqu'on fait une mauvaise première impression. Et donc, je me sentais pas du tout à l'aise et je tournais pendant une semaine autour du téléphone et je n'osais pas prendre l'écouteur. Et mon mari devenait fou, il avait ras-le-bol. Et dimanche soir, il m'avait dit, bon, écoute, c'est très simple. Si tu n'appelles pas maintenant, c'est que les trois manuscrits, tes manuscrits, à l'époque trois, vont finir dans la cheminée, ce qui, comme dit Rita, n'était pas bien grave parce que je les avais quand même sur ordinateur, mais quand même, c'était l'image et qu'il fallait agir.
Also habe ich am nächsten Montag tatsächlich dort angerufen und die Vanessa Gutenkunst, eine Mitarbeiterin oder die Mitarbeiterin schlechthin von Copyright, war am Telefon. Die sitzt hier in der ersten Reihe und begleitet mich seitdem. Ist eine sehr treue Seele. Und ich habe also wieder voller Freude mein Hannes angeboten. Und dann hat die Vanessa zu mir gesagt, ja, Frau Falk, also wir machen eigentlich nur lustige Frauen und Krimis. Und da passt der Hannes nicht rein. Und dann, und da, das ist heute noch so eine Gänsehautnummer, dann hat sie einen Satz gesagt, den sie noch nie zuvor irgendwann zu einem Autor gesagt hat. Und zwar hat sie gesagt, haben Sie denn nicht noch was anderes? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das am bayerischen Krimi. Und dann hat sie gesagt, her damit. Und schicken Sie mir mal die ersten 30 Seiten, aber ich brauche da jetzt schon so 6 bis 8 Wochen, bis Sie eine Antwort von mir haben. Und das habe ich dann gemacht, habe das per E-Mail rausgeschickt und am nächsten Morgen, wie ich meinen Computer hochgeladen habe, war eine E-Mail von der Frau Gutenkunst, wo nur drin stand, mehr, mehr.
Et alors donc le lundi, j'attrape mon téléphone et j'appelle Copyright et c'est Madame Vanessa Gutenkunst ici présente et qui m'accompagne donc brillamment depuis ce temps-là, qui décroche et qui me dit bon d'accord, venez toujours nous voir. Et alors j'arrive et je lui propose pour une énième fois le Hannes pour quand même. Elle me dit bah écoutez, ça me gêne un peu, mais soit on prend des femmes drôles ou des polars, c'est tout. Bien, et après Elle a dit quand même une phrase qu'elle n'a jamais encore dite à aucun autre auteur. Elle a dit « Vous n'auriez rien d'autre ?» Et là, je dis « Bon, écoutez, j'ai un petit polar bavarois. » Elle a dit « D'accord, envoyez-moi 30 pages. Laissez-moi 6 à 8 semaines pour que je lise un petit peu, que je vous donne une réponse. » Et elle m'a donc envoyé ce mail. Et le lendemain, après mon envoi, le téléphone a sonné et elle m'a dit « Envoyez-moi plus. »
Ja. Wollen Sie auch mal was sagen?
Vous voulez peut-être dire quelque chose aussi?
Non, non, mais c'est parfait. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur de faire une mauvaise première impression, mais je pense que vous faites aujourd'hui à tout le monde une très, très bonne première impression. Donc, bravo.
Oh, danke schön.
Moi, je voulais vous parler un petit peu de vos personnages parce que c'est aussi ça qui fait le sel de ce roman. C'est-à-dire, comme vous l'avez entendu dans le résumé, ils sont tous très hauts en couleur. Certains sont même complètement fous, soyons très honnêtes. Et moi, je me demandais si on ne pouvait pas parler un peu du personnage principal de Franz Eberhofer. Merci. Alors, on dit souvent qu'un auteur ressemble un peu à son personnage principal, et il se trouve que Franz Eberhofer déjà est un homme, donc je me demandais pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de prendre une femme, si jamais ça a un sens. Et aussi, il est à la fois un peu blessé dans son ego d'avoir été renvoyé de la police du Munich, et en même temps, ça satisfait un petit peu son côté flemmard, parce qu'il est un peu flemmard. Jusqu'à quel point vous ressemblez, vous, à votre personnage ?
Also ich bin ja irgendwann mal gefragt worden, warum ich aus der Sicht eines Mannes schreibe und konnte es damals gar nicht beantworten. Ich habe mir dann daheim Gedanken darüber gemacht und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich in meinen Texten so wahnsinnig viel von meiner Person preisgebe, dass ich so im Unterbewusstsein einfach dieses Schutzschild, dass irgendwas mich noch trennt von meinen Texten und das ist praktisch die Sicht des Mannes, weil ich eben eine Frau bin. Und ansonsten, glaube ich, ist der Franz Eberhofer mir, glaube ich, gar nicht so ähnlich, aber natürlich mir sehr ans Herz gewachsen, wie alle Protagonisten in meinen Büchern. Aber ganz kurz noch, aber er ist wirklich so ein Spiegelbild der bayerischen Polizisten. Also zumindest bestätigen sie mir das immer so.
Donc, effectivement, on m'avait déjà posé la question pourquoi un homme? Et lorsqu'on me l'avait posé pour la première fois, cette question, je ne pouvais pas répondre. Et j'ai réfléchi à la chose et je me suis dit quand même, dans mes textes, je me dévoile tellement que le fait d'avoir choisi un homme, c'est peut-être ma dernière protection, ma dernière séparation entre moi et mon écrit, ma narration. Et bon, que ce soit maintenant un homme ou une femme, c'est vrai que Franz Eberhofer, ce n'est pas moi, mais je l'aime beaucoup, comme j'aime beaucoup tous mes protagonistes. Et je trouve aussi que c'est un petit peu le policier bavarois, du moins c'est comme ça qu'il, c'est-à-dire les policiers me disent que c'est vraiment l'image même du policier bavarois.
Ich muss es vielleicht noch ein bisschen richtig stellen. Also die bayerische Polizei oder die bayerischen Polizisten sagen immer zu mir, Mensch, Ritter oder Mensch, Frau Volk, der Eberhofer ist so, wie wir gern wären, wenn wir dürften.
je précise peut-être ma pensée, c'est-à-dire les policiers bavarois me disent, écoute Rita ou Madame Falk selon, le Eberhofer, au fait, il est exactement comme nous. On aimerait être si on avait le droit de l'être.
Vous avez, comme vous l'avez dit, eu beaucoup, beaucoup d'affection pour vos personnages. Cette inspiration pour ces caractères très, très spéciaux, vous l'attirez d'où ? Est-ce que finalement, c'est des gens que vous avez déjà rencontrés ou pas ?
Teils, teils. Also, es ist tatsächlich ein Teil der Niederkaltenkirchner wirklich in meinem Leben vorgekommen, zum Beispiel die Mooshammerin, die ja die Dorfratschen ist, versteht man das? das war also tatsächlich meine eigene Nachbarin und das ist übrigens auch ein begeisterter Leser meiner Bücher, hat sich aber selber noch nie drin entdeckt, obwohl ich sie sehr genau beschrieben habe. Aber natürlich ist dann vieles auch erfunden, ja.
Je dirais en partie, effectivement, c'est tous les villageois donc de Niederkaltenkirchen, ce sont des personnes que j'ai côtoyées ou que je connais, notamment Madame Mooshammer, c'est la pipelette du village, et donc c'est ma voisine. Et franchement, je l'ai vraiment fidèlement décrite, mais elle s'est jamais reconnue. Pourtant, elle dévore mes livres, mais elle ne s'est jamais reconnue dans le personnage.
Alors, nous, ici, en France, tout ce qu'on connaît de la littérature allemande, c'est bien évidemment celle qui est traduite. Votre roman, il est sous-titré, je crois, en Allemagne, comme Province Krimi. Alors, si on traduit, je suppose que ça donne roman policier provincial, oui, de province. Est-ce que c'est un genre en Allemagne et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Ja, also, die... Korrekte Bezeichnung ist tatsächlich Regionalkrimi bei uns. Gibt es das in Frankreich nicht? Doch schon, ja. Provinzkrimi ist uns dann tatsächlich eingefallen, weil man muss ja irgendwas drunter schreiben, Kriminalroman oder Krimi oder sonst was. Und es war lange Zeit unschlüssig, aber ich finde, Provinzkrimi bringt es auf den Punkt.
Ja. Le terme korrekt, ça serait de dire c'est un roman policier régional. Et elle me demandait si ça existait effectivement en France, et je dis oui, ça existe. Mais au fait, le roman policier de province, ça c'est une création en interne, parce qu'il fallait bien mettre quelque chose sous le titre, et on a dit c'est un Provinzkrimi, un roman de province, et je trouve que c'était plus percutant.
Est-ce que l'humour que vous utilisez dans votre livre, c'est typiquement bavarois, parce que vous vous moquez quand même pas mal de la Bavière. C'est quand même très très ironique.
Ja, ich mache mich nicht nur über Bayern lustig. Ich mache mich eigentlich über auch Türken und Araber und alles lustig, weil ich finde, dass in dieser Zeit, wo alles wirklich so bierernst ist und so furchtbare Sachen passieren, der Mensch einfach ein Recht hat zu lachen. Und ja, ironisch, sarkastisch, böse und skurril und lustig.
Oui, mais je ne me moque pas uniquement de la Bavière, je me moque de tout, des Turcs, des Arabes, de tout le monde, au fait. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, où les choses sont si graves, si sérieuses, l'être humain a le droit de rire, de pouvoir rire. Et donc, oui, effectivement, je suis ironique, voire sarcastique, voire méchante et drôle.
Donc, vous tirez votre inspiration des histoires que vous raconte votre mari. Et en termes d'écriture, d'où est-ce que vous tirez votre inspiration? Qu'est-ce que vous lisez, en fait, pour vous inspirer?
Also erstens einmal habe ich ja gesegnete Fantasie. Also es war in der Schule wirklich schon so, dass meine Aufsätze einfach immer vorgelesen worden sind, also meine Mathematikaufgaben nicht. Und wir sind ein witziges Völkchen. Also tatsächlich, bei uns zu Hause wird wahnsinnig viel gelacht. Und es war einfach schon immer so, dass gerade wie die Kinder noch klein waren, wenn mein Mann von der Nachtschicht heimgekommen ist, dann, und wir haben uns für die Schule fertig gemacht, dann beim Frühstückstisch hat es immer geheißen, was ist passiert heute Nacht, was ist passiert, und dann ist das immer erzählt worden, und er hat natürlich um diesen ganzen gruseligen Geschichten, die er einfach teilweise erlebt hat, oft, die hat er einfach dann lustiger erzählt, um den Kindern einfach das zu ersparen oder zu erleichtern, und das ist irgendwann alles dann bei mir gelandet. Gott sei Dank.
Effectivement, j'ai la chance d'avoir une fantaisie très riche et d'être très imaginative. Et effectivement, à l'école déjà, on lisait mes exposés, jamais mes solutions aux problèmes mathématiques, bizarrement. Mais dans ma famille, on a beaucoup le sens de l'humour. Et lorsque les enfants étaient encore petits et que mon mari rentrait de service pendant tout le matin, tout le monde se retrouvait autour de la table de petit déjeuner. Et première question était, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et bien évidemment, les horreurs auxquelles mon mari avait été confronté pendant la nuit, il a essayé de les exposer peut-être de manière un peu plus drôle pour justement que ça ne soit pas aussi choquant pour les enfants, pour mieux faire passer la chose. Et après, de toute façon, il y avait moi pour faire le reste après.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est un langage qui est très, très oral. C'est vraiment des expressions très truculentes. C'est un plaisir de le lire tellement c'est drôle et tellement c'est typique. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi ce type de narration. Alors moi, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un journal intime. Je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez.
Naja, es ist ja auch so. Also ich erzähle ja das Leben vom Franz Eberhofer und seiner Familie zum einen Teil, und dann schleichen sich eben immer diese Unfälle oder Morde oder was auch immer, schleichen sich ein. Und wenn man im Fernsehen einen Krimi anschaut, dann hat man immer den Eindruck, die Polizisten, die sind 24 Stunden am Tag im Einsatz, die essen nicht, und wenn dann einmal eine Currywurst, und schlafen einfach nicht, bis der Mörder gefunden ist. Das ist natürlich ein Quatsch. Und ich finde einfach, dass ein Polizeibeamter, der auch einen Mörder sucht, trotzdem noch ein Privatleben hat. Und das verknüpfe ich eben mit den Krimis.
Oui, c'est un peu ça, parce que je raconte quand même la vie de Franz Eberhofer, qui, effectivement, dans tout son quotidien, jusqu'à ce qu'il lui arrive, c'est... il est confronté à ces accidents ou assassinats selon. Lorsque l'on regarde un polar à la télévision, on a l'impression que les policiers sont vraiment sur la brèche 24 heures sur 24, ils ne mangent pas ou jamais, vraiment peut-être juste une currywurst, ça c'est la fameuse currywurst, mais vraiment ils ne dorment pas jusqu'à ce que vraiment ils attrapent l'assassin, et ça bien évidemment, ce n'est pas du tout ça. Et ce que je me suis attelée aussi à montrer, c'est la vie privée aussi qu'ont ces personnages.
Oui, dans sa vie privée, notre cher Franz a des amis très particuliers. Donc il y a Simmer le boucher. On a aussi son ami plombier qui est complètement roublard et infidèle et qui s'appelle Flötzinger, je crois. Je sais pas si c'est aussi quelqu'un que vous connaissez, celui-là. Et puis il y a son frère que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est absolument détestable, mais vraiment c'est un type que. Et son frère, il est absolument insupportable. Il est pédant, il est nul en couple, mais c'est vraiment pitoyable. Et en fait, ce type-là est libraire. Et je me demandais, mais pourquoi vous écrivez un livre alors que le personnage le plus insupportable de ce bouquin, c'est le libraire, celui qui le vend?
Ja, das war natürlich provokant. Also den Buchhändler, den habe ich wirklich, ich habe da eine riesen Gaudi gehabt, wie ich das geschrieben habe, weil ich habe mir gedacht, sollte das wirklich jemals veröffentlicht werden, dann werden mich alle Buchhändler hassen oder lieben. Nein, zur Frage, was den Flötzinger angeht, also natürlich gibt's den Flötzinger wirklich. Also ich glaube, den gibt's sogar zuhauf wirklich. Ich habe einmal in meiner Fanpost einen Brief gehabt von einem Mann, der in der Nähe von Hamburg auch in einem Dorf lebt. Und der hat mir unter anderem geschrieben, liebe Frau Falk, ich wohne mitten in Niederkaltenkirchen und der Flötzinger ist mein Nachbar.
Et donc effectivement, alors le libraire, c'était une provocation. C'est une provocation de ma part parce que lorsque je l'ai créé, je me suis vraiment beaucoup amusée parce que je me suis dit si jamais un jour ce livre sera publié, les libraires, soit ils vont me haïr, soit ils vont m'aimer. Mais je me suis quand même beaucoup amusée. Et en ce qui concerne votre autre question quant à Flötzinger, oui, bien sûr, il existe, mais ils sont nombreux et variés. J'ai même reçu une lettre une fois d'un monsieur qui habite au centre, dans le centre de Hambourg, et il a dit, chère Madame Falk, Monsieur Flötzinger, il existe et c'est mon voisin.
Je pense que ceci, peut-être certaines personnes dans le public auraient une petite question concernant le titre très étrange de ce livre qui s'appelle La choucroute maudite. Alors en allemand, je suis désolée, je vais très mal le prononcer, mais c'est Winterkartoffelknödel. Boulette de pommes de terre d'hiver. Et en fait, c'est vrai que dans toute votre série, tous les titres ont un rapport avec la cuisine. Il se trouve que la mémé, d'ailleurs, cuisine très bien. Et qu'en plus de ça, à la fin du livre, on a aussi quelques recettes issues du cahier secret de la mémé. Pourquoi il y a cet attachement à la cuisine ?
Naja, angefangen hat es tatsächlich wirklich mit dem ersten Titel, mit Winterkartoffelknödel. Also für die, die es nicht wissen, Kartoffelknödel sind bei uns so kleine Bälle aus Kartoffeln und die isst man zum Schweinebraten. Und die sind in der Regel sehr blass und im ersten Roman wird eben jemand so blass wie ein Kartoffelknödel und weil im Winter die Kartoffeln noch heller sind als im Sommer, wird er so blass wie ein Winterkartoffelknödel.
Oui, effectivement, toute cette série des titres culinaires, ça a commencé avec le premier tome qui s'appelait Winterkartoffelknödel, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est les fameuses boulettes à base de pommes de terre. Et là, effectivement, ça accompagne un rôti de porc. Et c'est surtout un mets qui est très pâle, dans la couleur très pâle. Et dans le livre, il y a quelqu'un qui pâlit et qui prend la couleur non seulement d'une boulette de pommes de terre, mais d'une pomme de terre d'hiver, qui, au niveau coloris, est encore plus pâle que sa sœur d'été.
Und dann war ich irgendwann auf der Suche nach einem Arbeitstitel, weil wenn man das Manuskript anbietet, braucht man eben einen Arbeitstitel. Und da ist mir dieses Wort wieder eingefallen, Winterkartoffelknödel. Und dann war das mein Arbeitstitel und der Verlag hat das sofort großartig gefunden und dann wurde das so übernommen. Und beim zweiten war es eigentlich dann klar, wir wollten in dieser Schiene bleiben, eben was Kulinarisches und irgendwas Schräges dazu zu fügen.
Et moi, j'étais à la recherche de mon titre de travail pour ce livre-là. M'est revenu ce mot Winterkartoffelknödel et que j'aimais bien et je l'ai proposé à la maison d'édition qui a dit tout de suite, ben oui, on y va. Et lorsque le deuxième tome est arrivé, on s'était tout de suite mis d'accord pour dire maintenant, il faut qu'on reste un petit peu dans ce côté culinaire un peu fou.
Vos livres, alors je ne sais plus si c'en est un seul ou deux, ont été adaptés au cinéma. Et vous disiez tout à l'heure que il n'y avait pas beaucoup de remparts en fait entre vous et votre écriture. Et vous n'êtes pas senti un peu dépossédé de la chose quand c'est arrivé sur un écran ?
Also ich weiß nicht, wie das hier in Frankreich ist, aber in Deutschland lebt man eigentlich als Autor ziemlich unerkannt. Also es passiert mir wirklich äußerst, äußerst selten, vielleicht auf der Buchmesse, dass mich mal jemand anspricht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so populär wäre, dass mir ständig irgendwelche Fans an den Wadeln kleben würden. Also, ne.
Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Allemagne, en tant qu'auteur, vous pouvez quand même vivre assez tranquillement. Vous n'êtes pas vraiment reconnu comme ça par les gens dans la rue qui s'accrochent à vous, qui vous arrachent les affaires. Mais peut-être dans un salon du livre, à la rigueur, on va peut-être vous connaître. Mais non, on peut vivre assez discrètement.
D'accord. Les éditions Mirobol qui ont publié votre livre en français. Je me demandais si vous ne pouviez pas nous faire un rapide résumé du numéro 2 pour les forcer à le traduire.
Ja, also ich, soweit ich weiß, von meinen wunderbaren Übersetzerinnen ist das wohl schon in Arbeit. Im zweiten Fall, also der zweite Fall ist tatsächlich ein Auftragsmord. Und zwar war das so, ich war ziemlich am Ende vom Winterkartoffelknödel auf den letzten Seiten und dann ist mein jüngster Sohn von der Schule heimgekommen und hat seinen Schulranzen ins Eck geschmissen und hat gesagt, Mama, ich muss unseren Rektor umbringen. Und dann habe ich gesagt, lass bleiben, Schatz, ich mache das schon.
Effectivement, les deux excellentes traductrices qui ont déjà fait le tome 1, je pense, se sont déjà attelées à la traduction du numéro 2. Je pense que c'est un travail déjà en cours. Donc là, je dois dire, en ce qui concerne le deuxième tome, il s'agit d'un assassinat quand même sur commande parce que à un moment, mon dernier fils, il est rentré à la maison, il a balancé son cartable dans un coin, il a dit, écoute maman, je dois tuer le directeur. Il a dit, laisse ça mon fils, je m'en occupe.
Also es wird im Dampfnudel bloß, ich weiß dann nicht, wie er im Französischen heißt, genau, wird ein Schulrektor tot aufgefunden. Zuerst verschwindet er und taucht dann wieder auf, um kurz darauf nochmal zu verschwinden, aber dann ist er tot. Und zwar von einem Zug überfahren und wie sie diesen Leichnam dann bergen, drückt also ein Bahnpolizist in der Nacht, drückt er am Franz was in die Hand und sagt, halt mal, und der Franz hält und leuchtet dann mit der Taschenlampe hin und dann hat er den Kopf des Rektors an den Haaren. Mal kurz übersetzen, da kommt noch was. Alors, dazu.
Et donc là, c'est le blues de la Dampfnudel. Je suis dans l'incapacité, je sais pas, je t'avais rien gesehen.
Das ist eine Dampfnudel. Das ist eine Süßspeise, wunderbar, und die isst man mit Vanillesoße.
Alors donc c'est un dessert qui est très très bon et que l'on mange avec de la crème anglaise. Bon, alors c'est le blues de la Dampfnudel, de ce dessert délicieux. Et au fait, il s'agit donc là d'un assassinat du directeur d'école, d'un directeur d'école qui disparaît, qui réapparaît et puis qui redisparaît pour être retrouvé finalement mort, assassiné. Et voilà, lorsque l'on en relève les empreintes et tout ça, on arrive sur les lieux. Franz Eberhofer est là et un des collègues lui dit bah, tu peux me tenir ça s'il te plaît, et Franz Eberhofer tient ça et prend sa lampe torche et regarde ce qu'il tient quand même pour voir, et il se rend compte qu'il tient en fait par les cheveux la tête du directeur d'école.
Ja, und das ist auch wieder ein Fall, der tatsächlich passiert ist und auch wirklich ganz tragisch passiert ist. Es wurde eine junge Türkin überfahren und mein Mann hatte das Vergnügen, den Kopf dieser jungen Frau an ihren Haaren. Also es war wirklich so, dass der Kollege zu ihm gesagt hat, halt mal. Und der Robert hat das dann eben morgens erzählt und hat, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach die Tragik rausgenommen, damit die Kinder das halt lustig fanden. Und so habe ich das dann verarbeitet.
Et là, pareil, il s'agit quand même d'un fait réel. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que c'est une jeune femme turque qui est morte dans un accident. Et mon mari, effectivement, s'est retrouvé à tenir la tête de cette jeune femme turque par les cheveux. Et son collègue lui a vraiment dit « Tiens ça, peux-tu me tenir ça ?» Et donc le matin, dans nos retrouvailles pour le petit déjeuner, il nous a raconté ça tout en enlevant de ce fait tout ce qui était tragique, tout ce qui était horrible, pour ne pas choquer les enfants. Et voilà, c'est comme ça que j'en ai hérité.
En fait, on peut presque dire que vous êtes deux auteurs là derrière, non?
Also, er ist zumindest beratend unglaublich wichtig. Also jetzt nicht nur, dass ich ständig irgendwas aus seinem Arbeitsleben verarbeite, sondern auch als Kritiker. Also ihm wird immer vorgelesen. Also ich lese ihm abends immer mein Tagewerk vor Und dann kommt er natürlich mit dem Rotstift an und sagt, du, das läuft aber anders und das ist mit der Staatsanwaltschaft so und mit dem Gericht so. Und dann wird das umgeschrieben oder verbessert und manchmal aber auch nicht. Also wenn ich der Meinung bin, wie im Winterkartoffelknödel, da schießt der Franz irgendwann auf den Plattenspieler vom Papa, weil er einfach die Beatles nicht mehr ertragen kann. Und dann hat der Robert gesagt, kein Polizist schießt auf einen Plattenspieler. Und ich habe gesagt, doch, der Franz schon.
Du moins, je peux dire que mon mari, effectivement, c'est un conseiller très, très important. Non seulement, donc, je me nourris des histoires qu'il me raconte, mais c'est aussi mon critique tous les soirs. Je lui lis ce que j'ai fait dans la journée. Et après, bon, effectivement, il est mon lecteur, il corrige, il me dit, mais non, avec le parquet, le ministère public, ça se passe comme ça, et avec le tribunal, c'est comme si. Bon, après, j'accepte les corrections, mais pas toujours. Notamment, par exemple, dans le premier tome, Winterkartoffelknödel, il y a une scène où, effectivement, le policier, il tire avec son arme de service dans le tourne-disque de son père parce qu'il en a vraiment ras-le-bol d'écouter les Beatles pour la énième fois. Et donc, mon mari a dit, mais aucun policier jamais de la vie tirerait sur le tourne-disque de son père. Il a dit, si, il y en a un, c'est Franz.
Eh bien, je pense qu'il ne me reste plus qu'à remercier Rita Cordula, l'Institut Goethe, Initiative Bordeaux-Munich aussi, qui a coordonné également cette rencontre. Et puis, bien sûr, les éditions Mirobol qui nous ont apporté en France ce livre réjouissant, drôle et qu'on adore. Merci à vous tous.
Vielen Dank auch von mir.